Bonjour. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a comme fête demain? Qu'est-ce qu'il y a comme fête demain? Alors, il y en a plusieurs en fait. Pour les orthodoxes, les Grecs orthodoxes, c'est Noël. Pour les Arméniens aussi, hein, Rosie? Pour l'église maronite, c'est le baptême de Jésus. Et ici, qu'est-ce qu'on va fêter demain? La galette de roi, merci. Qu'est-ce qu'on va fêter demain? Il n'y a pas de piège. C'est l'épiphanie. Est-ce que quelqu'un sait que veut dire ce mot? Non? Épiphanie. Je ne suis pas très doué hein, dans le dictionnaire, trouver les définitions, ainsi de suite. Donc, je regarde le dictionnaire et j'ai trouvé deux significations, deux définitions à ce mot. Il y a une dans le sens religieux qu'on connaît tous, c'est écrit, c'est une fête de l'Église qui se fête le 6 janvier et qui rappelle la manifestation de Jésus aux mages. Bon, déjà, on ne dit pas les rois mages, hein. On dit uniquement les mages, ce qui est beaucoup plus juste. Mais ce qui m'a un petit peu interpellé, c'est qu'il y a une deuxième définition. Et ils disent, quand on écrit « épiphanie » avec le « e » en minuscule, ça veut dire autre chose, enfin, pas autre chose complètement, mais un petit peu différemment. Ils disent « c'est une prise de conscience soudaine de la nature profonde d'un événement ». Et il cite comme exemple les épiphanies de la musique, les épiphanies de l'amitié, ainsi de suite. Une prise de conscience de la nature spéciale d'un événement. Et là, ça tombe bien. Cette prise de conscience des mages de l'arrivée d'un roi. Quelque chose d'important, l'épiphanie. Alors, je vous rassure, je ne suis pas du tout un amoureux des fêtes et de tout ce qu'on a dans le de tout ce qu'on a l'habitude de recueillir comme fête, ainsi de suite. Et il est vrai, au début de ma conversion, comme tous les nouveaux convertis, on aime être droit biblique et ne faire que les choses qui sont bibliques. Et j'ai bien compris, je savais que la seule fête que Jésus nous a demandé de fêter, c'est quoi? C'est la Pâque. C'est sa mort. Et sa résurrection. Merci Gabriel, j'inclus tout ça dedans. Vous avez bien compris. Ce qui est intéressant, c'est sa résurrection, pas uniquement sa mort, quoique elle est importante. Donc, je n'avais même pas envie de fêter Noël, bien sûr, surtout pas non plus l'épiphanie ou le baptême de Jésus ou ainsi de suite. Mais je me suis dit, mais est-ce que dans le contexte biblique, il y a un antécédent? Et là, je me suis rappelé de quelque chose. Il est vrai que dans l'Ancien Testament, Deutéronome, Lévitique, ainsi de suite, les fêtes juives sont bien orchestré, bien donné, bien demandé que les Juifs le fêtent, les Hébreux. Or, il y a une fête que les Juifs vont fêter et fête chaque année et qui n'a pas été ordonnée par Dieu. Vous savez laquelle? Philippe n'est pas là, si il est là, mais il la connaît, mais ne dit rien. Non? C'est la fête des Pourim, ou Pourim. Elle était, si vous rappelez d'Esther, Esther c'était une reine juive. Et cette reine juive, qui était du temps d'Assuréus, hein, en Perse quand ils ont été déportés, elle a sauvé le peuple juif. Et pour sauver, et pour fêter, et pour célébrer cet événement, dans le 9e chapitre du livre d'Esther, il est dit... Ceux qui se trouvaient à Suse, étant rassemblés le 13e jour et le 14e jour, se reposèrent le 15e et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent les villes sans murailles font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin, de fête, où l'on savoure des, où l'on s'envoie des portions, on se fait des cadeaux, les uns aux autres. Les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attachent à eux, la résolution et l'engagement irrévocable, irrévocable, de célébrer chaque année ces deux jours, selon le mode prescrit et au temps fixe. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. Pourquoi ? Parce que c'était quelque chose d'important pour eux. Tellement important qu'ils ont pris la décision de se souvenir et de se rappeler. Et là, je me suis dit, Simon, oui, c'est vrai que Jésus nous a demandé de célébrer sa mort, mais il y a aussi d'autres événements importants que ce n'est pas hérétique qu'on puisse se rappeler et les vivre. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous donc ce passage en Matthieu où justement les mages vont venir visiter Jésus, le reconnaître et lui rendre hommage. Ce qu'on va faire pour le regarder, je vais le faire d'une manière un petit peu différente de mes habitudes. Vous savez, mes habitudes, c'est toujours, on lit un texte biblique, on vous dit où est-ce qu'on veut y arriver ? Une introduction, un développement, puis une conclusion avec plein de transparents qui s'affichent. J'ai choisi aujourd'hui, pour une fois, de faire un petit peu différemment. Je vais découvrir avec vous ce passage presque exactement de la manière dont je l'ai redécouvert, dans la manière où je l'ai réfléchi, je l'ai pensé, de ce qu'il m'a parlé. Et vous allez voir que j'espère, de cette manière, il va parler à chacun de vous, peut-être d'une manière complètement différente de la manière dont ça m'a parlé, mais ça va être quelque chose de bénéfique pour nous. Voilà, Matthieu chapitre 2, on va lire ensemble verset 2 au verset 12, verset 1 au verset 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile ou sa lumière. » Le mot veut dire lumière, mais directement on peut traduire étoile. En Orient, son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Vous savez, tout le monde le sait, j'ai la traduction seconde la plus ancienne. Qui dit le mot « adorer ». Mais si vous avez d'autres traductions, vous pouvez voir « rendre hommage ». Le mot exactement ne veut pas dire « adorer », il est vrai. Il veut dire « se prosterner ». Quand on a le mot « se prosterner », on peut le traduire de deux manières. La première, quand il est utilisé dans le sens social, c'est « rendre hommage à quelqu'un ». Exemple, en Matthieu, la mère des deux fils de Zébédée, quand elle est venue voir Jésus pour lui demander que ses deux fils, l'un soit à sa droite, l'autre soit à sa gauche quand il reviendra, elle s'est prosternée. Mais si vous voyez la traduction, ce n'est pas pour adorer Jésus, c'est pour lui rendre hommage. Et Corneille, quand Pierre est arrivé, s'est prosterné devant lui. On ne dit pas « Corneille a adoré Pierre ». Dit c'est prosterné. Mais aussi dans le domaine religieux, le même mot peut être aussi utilisé comme adorer. Par exemple, la tentation de Jésus. Satan lui a demandé de se prosterner devant lui et de l'adorer. Et Jésus lui a répondu, tu n'adoreras pas. Et là, on traduit le mot prosterner par adorer. C'est pour cela qu'il peut être de deux manières. Et certaines traductions, au lieu d'utiliser le mot adorer, disent se prosterner. Mais en fait, déjà, on reconnaît une chose. Ces mages d'Orient. Alors, qui sont les mages? Je pense que on a bien compris que ce n'étaient pas des rois, mais c'était une caste dans l'Empire perse, qu'on appelait les sages, qui avait pour rôle d'aider le roi dans la gestion des affaires de l'État, mais surtout aussi dans tout ce qui est religieux. C'était un petit peu les intellectuels de ce temps. Ils étudiaient la nature, ils étudiaient aussi l'astronomie, et Daniel était mis comme le chef des mages, des sages, lorsqu'il a expliqué au roi Nabucodonosor lorsqu'il a trouvé tout seul qu'est-ce que était le songe, et lui a donné l'explication. Voilà un petit peu, on continue la réflexion, la discussion, la lecture. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer ou lui rendre hommage. Vous savez, au départ, les mages s'attendaient à la naissance d'un roi. Donc, où est-ce qu'on va? Roi, fils de roi, la ville royale, c'est Jérusalem. Donc, ils sont allés à Jérusalem pour se demander où est le roi qui était né. Et voilà l'histoire. Les sacrificateurs, les scribes s'attendaient à l'arrivée d'un roi, mais il n'était pas là, ils lui ont dit qu'il faut à Bethléem, terre de Juda, c'est de là qu'on pense qu'il va y aller. Continuons notre lecture. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau à Noël? Vous n'avez rien eu? Moi, j'ai eu quelque chose. Vous n'avez rien eu? Est-ce qu'il y en a qui, ça ne leur plaît pas, qui l'a mis en revente? Non? Pourquoi on met un cadeau en revente? Parce que ça ne nous plaît pas. Si la personne qui nous l'a offert nous avait demandé notre avis, on lui aurait dit le cadeau qu'on aimerait avoir et on n'aurait pas eu besoin de faire l'affront de remettre son cadeau en revente sur Internet. Oui, vous êtes d'accord? Donc là, il y a deux questions qu'on se pose. Qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau à Noël? La deuxième, est-ce que ce cadeau m'a fait plaisir? Là, on voit, cadeau, hein? Les mages sont arrivés et vu la situation, vu l'événement, ils lui ont offert des cadeaux. Ils attendaient à la naissance d'un roi. On ne va pas arriver avec un crayon ou des choses comme ça qu'on va lui offrir, ou un petit livre. Des cadeaux dignes d'un roi. Alors, vous prenez les commentaires bibliques, ils vous expliquent beaucoup sur la signification de l'or, sur la signification de la myrrhe, sur la signification de l'encens, et ainsi de suite. Ou bien d'autres vous disent que quand même c'était quelque chose divinement inspiré, parce que dans leur fuite en Égypte, pendant des années, ils sont restés, 4 ans probablement ils sont restés, il a fallu qu'ils puissent vivre. Donc c'était un petit peu, ils ont pu revendre tout ceci et puissent vivre en Égypte le temps que le roi Hérode soit mort et que l'ange apparaît à Joseph, lui dit que maintenant tu peux retourner en Judée. On se pose 2 questions. La première, qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau à Noël? La deuxième, est-ce que ça m'a fait plaisir? Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'illogique dans ces 2 questions que je viens de poser? Si on fête l'anniversaire de quelqu'un, qui reçoit le cadeau? La personne dont on fête son anniversaire. Moi, quand je fête l'anniversaire de mes enfants, ce n'est pas moi qui reçois le cadeau. J'aurais bien aimé. Ce n'est pas moi. Vous aussi, pareil. Alors, pourquoi on parle de recevoir de cadeaux pendant Noël, nous-mêmes? Ce n'est pas étonnant. Alors, essayons de résoudre donc cette première question. Je suis avec vous les réflexions que j'ai eues en lisant ce passage. La première question, à Noël, puisque j'ai décidé de fêter Noël, c'est un événement important. Que pouvons-nous offrir à Jésus? Pas à mon épouse, pas à mes enfants, pas à mes collègues. Noël. C'est l'anniversaire de naissance de Jésus. Donc, que pouvons-nous offrir à Jésus? Ça ne marche plus. La première chose qui m'est arrivée à la tête, à ma réflexion, c'était lui offrir ma reconnaissance. Et puis je me suis dit, mais Simon, généralement, quand je dis à quelqu'un « je t'offre ma reconnaissance », c'est parce que ça m'embête, j'ai rien à lui offrir. Et puis au moins là, c'est dit et c'est du blablabla, de toute façon, ça ne me coûte rien. Ça ne vous est jamais arrivé, ça? Non? Je t'offre ma reconnaissance. Je me suis dit, mais non, tu ne peux pas uniquement dire « ma reconnaissance ». Alors, quand on offre un cadeau, il est suivant l'événement. L'importance est suivant l'événement. Généralement, quand vous êtes invité chez quelqu'un pour le repas, vous venez avec un cadeau qui est en rapport. Une bouteille de vin, une fleur, le dessert, ainsi de suite. Les présidents de la République, quand ils s'offrent des cadeaux suivant les événements, c'est un peu plus, ayant plus de poids. Nous, on ne peut pas s'offrir ou offrir de tels cadeaux. L'importance du cadeau doit être suivant l'importance de l'événement. D'accord? Alors, là aussi, j'ai regardé un petit peu quelle est l'importance de cet événement pour que je sache quel cadeau peut-on offrir à Jésus à Noël? Et là, je me suis rappelé les paroles de Jean-Baptiste, qui dit, à l'interrogation des disciples de Jean-Baptiste sur Jésus, il a répondu qu'il n'était même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Et après, il a dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Matthieu, chapitre 1, verset 23, qui dit « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. En fait, parmi les Juifs de ce temps-là, il y avait parmi eux quelqu'un de plus important qu'un roi, plus important qu'un prophète, plus qu'un messie. L'importance de l'événement, c'était Dieu parmi eux. Si on veut considérer l'importance de cet événement, Emmanuel, Dieu parmi nous. Et pour encore comprendre la signification plus profonde de ce mot « Dieu parmi nous », Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, il dit « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » À Noël, c'est Dieu parmi nous. C'est quelqu'un, c'est une personne, un être qui existait en forme de Dieu, s'est dépouillé et il est né comme un simple homme et devenir un serviteur. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Voilà un petit peu l'importance, la grandeur de cet événement à Noël. Jésus a laissé sa gloire divine pour descendre et être parmi nous, un serviteur. Je doute qu'on a bien compris la profondeur de ceci. Souvent, je donne comme exemple pour vous donner, pour qu'on puisse imaginer ceci. On aime tous les animaux. Mais est-ce que quelqu'un accepterait de devenir un chien ou un chat par amour pour son chat ou pour son chien, s'il faut le sauver? Et c'est ça. L'Ecclésiaste, lui, sait de quoi est formé l'homme. Et que dit-il, chapitre 3, versets 19 à 21, il dit « Le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Quand meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. » Si on veut vraiment saisir et comprendre ce que Christ a fait, la grandeur de cet événement le jour de Noël, imaginez-vous ceci. Est-ce qu'un de nous accepte de changer sa nature et de devenir un animal rien que parce qu'il aime son chat ou son chien, aucun de nous ne l'accepterait. Et la différence entre Dieu et l'homme, elle est 100 fois plus importante. Or, Jésus a quitté sa nature pour qu'à Noël, il devienne une simple serviteur parce qu'elle nous a aimés. Dieu parmi nous. Et là, je me suis rappelé aussi d'autres choses. Qu'est-ce que je peux lui offrir? Mais tout appartient à Dieu. Notre argent lui appartient. Nos propriétés, nos dons, ceux qui savent bien chanter. J'ai rien contre, hein, Jennifer, que quelqu'un ne prend. Mais notre voix, c'est Dieu qui l'a donnée. Notre intelligence, si on est des bons prédicateurs ou des bons théologiens ou des bons scientifiques, c'est Dieu qui nous l'a donné. Qu'est-ce que je veux lui offrir? Job chapitre 41, verset 3, il dit « De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient, dit l'Éternel. » Psaume 51, « Je connais tous les oiseaux et les montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. » En fait, j'avais raison de dire « Je t'offre ma reconnaissance. » Parce qu'on ne peut rien lui offrir qui soit à la hauteur de cet événement pour le jour de Noël, le jour de sa naissance. Il n'y a pas un événement, il n'y a pas un don qu'on peut lui offrir qui soit à cette hauteur, surtout que tout lui appartient. Mais comme je suis tenace, j'ai quand même voulu savoir, mais qu'est-ce que je peux offrir à Noël, à Jésus? Vous vous rappelez de ma deuxième question? La première, c'était, qu'est-ce que vous avez reçu à Noël? Et on a vu qu'à Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. Ce n'est pas nous qui recevons, c'est lui qu'on doit lui offrir. La deuxième question que je vous ai posée, est-ce que ça vous a fait plaisir? Est-ce que vous l'avez gardé ou vous l'avez revendu? Ou vous en êtes débarrassé en refilant le cadeau à un autre? Non, je ne fais pas ça. Hein. C'était juste, ça vient de me passer à la tête. Ça vient de me passer. Et je vous ai dit que la meilleure chose de ne pas faire ceci, c'est de demander à la personne qu'est-ce qui te fait plaisir pour que je puisse t'offrir. Au moins, on est sûr que ça va lui faire plaisir et qu'il va l'utiliser. Donc, la question qu'on doit se poser, Seigneur, qu'est-ce qui te fait plaisir pour que je puisse t'offrir à Noël? Et là, il y a deux versets bibliques qui sont, ou deux passages qui me sont venus à l'esprit. Le premier, Luc chapitre 6, verset 46, où il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Si on l'appelle Seigneur, parce qu'on pense que ça fait lui plaisir, ce qui lui fait plaisir, c'est de faire ce qu'il veut. En d'autres termes, lui obéir. Et là, vous connaissez tous l'histoire de Samuel, de Saül, pas de Samuel. Où on le lit en premier livre de Samuel, chapitre 15. Dieu a donné l'ordre à Saül de tuer les Amalécites. Pour certaines raisons, ce n'est pas... On ne va pas discuter aujourd'hui. Et de vouer tout par interdit, y compris les bêtes, de ne rien prendre pour lui. Saül et les peuples l'ont bien accompli, mais n'ont pas tué ni le roi, et toutes les bêtes qui étaient bonnes, fortes, grasses, ils les ont gardées pour eux. Ils les ont gardées pour eux. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, Saül? Chose très importante. Qu'est-ce qu'il lui a dit Samuel? Dommage, ça ne s'affiche pas. Il lui a dit, en Samuel chapitre 15, verset 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Et il ajoute, la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. En fait, dès le début, même dans un système où il y avait des sacrifices, des offrandes, dès le début, on voit que Dieu, ce qui l'intéresse avant tout, ce n'est pas les sacrifices, ce n'est pas les bêtes qu'on offre, ce n'est pas l'argent qu'on donne, c'est l'obéissance. Et il dit en plus, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Celui qui pratiquait la divination, la magie, était puni de mort. Et pour Dieu, la désobéissance était aussi coupable que la divination. Donc voilà ce qui fait plaisir à Dieu, ce qui fait plaisir à Jésus pour que je lui offre le jour de Noël, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Mais, l'obéissance, c'est quelque chose d'un petit peu trop abstrait. Seigneur, je t'offre mon obéissance. Mais en quoi ? Tu vas m'obéir en quoi? Et c'est là où je souhaite que chaque personne de nous trouve l'application qui est propre à lui. Et pas celle que moi j'ai eue comme réponse lorsque j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'offre? Alors, on peut penser à plusieurs choses. La première, on peut lui dire, Seigneur, je vais t'offrir, je vais t'obéir. Il y a telle chose que tu nous demandes de faire et je n'arrive pas à le faire dans ma vie. Je vais te l'offrir cette année. Je veux faire de sorte que dans cette partie de ma vie, je vais t'obéir. Exemple, la semaine dernière, Afonso nous a parlé du pardon. Peut-être que je n'arrive pas à pardonner. Je vais lui dire, Seigneur, pour ton anniversaire, je vais t'offrir l'obéissance dans le pardon. Obéir, t'obéir à ce que tu m'as demandé de pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois pour mon prochain, pour mon frère, pour ma sœur. Ça peut être complètement autre chose. Dans le témoignage, par exemple, ou tout à fait autre chose. Mais ce qui est important dans ceci, ce n'est pas ce que moi j'ai envie de lui offrir. D'accord? C'est de lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me mets à cœur? En quoi je dois t'obéir? Qu'est-ce que je peux t'offrir et qui te fait plaisir pour ton anniversaire qu'on a fêté à Noël? Les mages, quand ils sont arrivés, se sont rendus compte de cette grandeur des événements. Ils ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter, des choses très importantes, très coûteuses. Pour nous, ils nous demandent de lui obéir. En quoi, Seigneur, veux-tu que je t'obéisse? Et je veux te l'offrir comme cadeau à Noël. Et c'est à ce moment-là que la fête de Noël devient quelque chose d'importante, parce qu'elle va avoir un sens, parce que je vais prendre une résolution, parce que je vais demander à Jésus, qu'est-ce que te fait plaisir pour que je t'offre pour Noël? Et pour finir, j'aimerais vous encourager quand même pour que vous ne dites pas « Oui, mais est-ce possible? Est-ce que vraiment je vais y arriver à le faire? Est-ce que je serai capable de tenir ce cadeau que je vais offrir ?» Et là, je vous rappelle, on l'a déjà fait il y a à peu près un an et demi, on l'a vu. Philippiens chapitre 1, chapitre 2. Verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il est tout à fait normal, et on l'a vu, que par nos propres moyens, on risque de ne pas pouvoir y arriver à tenir. Mais on a cette promesse, cette assurance, que si on est sincère, le Seigneur nous aidera. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Inclinons-nous dans la prière. Merci Seigneur de cette prise de conscience qu'on a pu avoir de cette grandeur de l'événement qui s'est produit à Noël. Parce que tu as quitté ta gloire pour venir vivre parmi nous comme un simple homme, comme un serviteur. Et c'était la preuve de ton amour pour nous. Seigneur, nous voulons te prier ce matin afin que tu nous dises, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te souhaite que je change dans ma vie? Et je vais faire l'effort par ton aide afin que je puisse te l'offrir, que je puisse y arriver. Amen. Voilà un petit peu ce que j'ai voulu partager avec vous. C'est comme ça, c'est en lisant ce passage, c'est qu'en ayant ces pensées, que je suis arrivé à ce type de raisonnement et j'ai voulu le refaire avec vous. Maintenant, c'est le moment où Jésus nous a demandé de se rappeler, de le fêter, la Pâque, mais il nous a dit chaque fois que vous mangez et vous buvez ensemble, faites ceci en mémoire de moi. Et avant de partager ce repas, ce qu'on appelle la Sainte Cène, j'aurais aimé revoir avec vous le passage qu'on lit souvent en Corinthiens, chapitre 11, où Paul dit ce qu'il a reçu lui-même du Seigneur. Il dit, chapitre 11, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Comme on le répète à chaque fois qu'on partage ce repas ensemble, cette sainte cène, ce n'est pas une invitation à prendre la fuite, à avoir peur. Au contraire, c'est une invitation à prendre conscience devant Dieu de qui on est, qu'on s'éprouve soi-même. Et si on a commis quelque chose qui n'est pas correct, qu'on a commis un péché devant Dieu, ben c'est le moment de demander pardon. L'apôtre Paul dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Je laisse le temps à chaque personne, à chacun de nous, de s'éprouver devant le Seigneur, de se recueillir et de mettre sa vie à nu devant lui.